France Culture.
Et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux défis que l'Union européenne tente de relever pour s'affranchir de ses dépendances et vulnérabilités vis-à-vis des États-Unis. Nous parlions hier de son mouvement de réarmement, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, la politique commerciale de Donald Trump et ses droits de douane tous azimuts, l'Union européenne contre-attaque.
Nous avons pris la décision et ce sera 25% d'une manière générale. Et cela concernera les voitures et toutes les autres choses. L'Union européenne est un cas différent de celui du Canada. Ils profitent de nous d'une manière différente. Ils n'acceptent pas nos voitures, ils n'acceptent pas essentiellement nos produits agricoles. Ils invoquent toutes sortes de raisons de ne pas le faire. Soyons honnêtes, l'UE a été créée pour entuber les États-Unis, c'est son but.
C'est pas une bonne nouvelle. On n'a pas le choix et il faut qu'on trouve des solutions. On a dû mettre en bouteille un petit peu plus tôt afin de pouvoir expédier la plupart de nos commandes pour les États-Unis avant l'annonce et la mise en place de cette taxe.
The European Union must act to protect consumers and business.
L'Union européenne doit agir pour protéger les consommateurs et les entreprises. Les contre-mesures que nous prenons aujourd'hui sont fortes, mais proportionnées, puisque les États-Unis appliquent des droits de douane d'une valeur de 28 milliards de dollars. Nous répondons par des contre-mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros.
Ces contre-mesures prises par l'Union européenne font l'objet d'une liste qu'a consulté le média en ligne européen Politico. Parmi les produits importés des États-Unis et qui feront à leur tour l'objet de surtaxes douanières, il y a le poulet, les fruits et légumes, les boissons alcoolisées, mais aussi les chewing-gums, les vapoteuses, les outils de bricolage, les chasse-neige, les hosties, les négligés féminins, le mot pudique pour parler des nuisettes. C'est le côté amusant du travail des fonctionnaires européens, écrit Politico, relayé par Courrier International, mais ces listes sont dites est-il pensé pour avoir un véritable impact économique dans les États républicains où les élus pourraient inciter Donald Trump à abandonner sa guerre commerciale? Préférer les joies des petites vengeances à celles de la bonne entente qui prévalait jusque-là entre les États-Unis et l'Union européenne, le président américain lance ainsi les hostilités contre son premier partenaire commercial au monde, lequel réplique avec la palette d'outils dont il dispose. La politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Entre vraies menaces et par d'esbrouf, quel est le véritable niveau de pression commerciale sur l'Europe? Quelles conséquences économiques et sociales peut-on anticiper? Et comment être moins dépendant des États-Unis aussi sur le plan des échanges économiques? Bonjour Vincent Vicard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et adjoint au directeur du CEPI, responsable du programme analyse du commerce international. Vous avez écrit « Faut-il réindustrialiser la France ?» paru au PUF l'année dernière. Bonjour Marion Gaillard.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes historienne, spécialiste en particulier spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris. Alors pour commencer par l'écume des choses, et je vous promets qu'on ne va pas passer toute l'émission à commenter les esbroufs ou les phrases outrancières de Donald Trump, mais il se trouve qu'hier il a encore dit qu'il n'avait absolument aucune intention d'assouplir les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, et surtout que cette mesure avait déjà rapporté des milliards de dollars aux États-Unis. Vincent Vicard, est-ce que ces droits de douane peuvent avoir rapporté en 5 jours des milliards de dollars déjà aux États-Unis?
Alors c'est peu probable, hein. on ne sait pas trop Donald Trump ce qu'il a en tête. Il utilise beaucoup de chiffres qui sont souvent approximatifs ou faux, donc il faut souvent le rappeler. Il n'empêche que les droits de douane, c'est d'abord un impôt, et donc effectivement ça rapporte de l'argent, mais ça va coûter aux consommateurs américains et aux entreprises qui utilisent de l'acier américain. Donc effectivement, ça rapporte de l'argent. Alors des milliards, sûrement pas dans les quelques jours qu'on a connus depuis l'imposition des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, mais ça rapporte effectivement de l'argent et c'est une partie d'ailleurs hein, des objectifs de Donald Trump. Alors il y en a énormément qui sont associés aux droits de douane et aux sanctions commerciales qu'il veut mettre, mais il n'empêche, une des parties, c'est justement d'avoir des recettes budgétaires pour remplacer notamment l'impôt sur le revenu et pouvoir baisser les impôts pour les Américains. Alors, c'est pas vraiment baisser les impôts parce que finalement, les droits de douane sont une taxe et donc c'est le taxer d'une manière différente et aussi d'une manière qui touchera plus les consommateurs et les citoyens qui ont des revenus faibles par rapport aux citoyens qui ont des revenus élevés ou aux grandes entreprises multinationales.
Vous disiez que certaines entreprises américaines ont déjà commencé à en payer le prix parce qu'elles importent de l'acier d'Europe ou de l'aluminium, lesquels par exemple, l'automobile par exemple états-unienne ne travaille pas qu'avec la sidérurgie états-unienne.
Oui, l'automobile, l'aéronautique, un certain nombre d'entreprises qui vont utiliser, alors d'une part, celles qui importent directement l'acier et puis aussi celles qui vont devoir se fournir auprès des producteurs de l'acier et d'aluminium américains. Et donc, ces producteurs, ils vont pouvoir augmenter leur prix parce qu'ils vont avoir moins de concurrence et c'est exactement l'objectif de Donald Trump, augmenter les prix pour pouvoir faire augmenter la production aux États-Unis. C'est pas pour rien qu'il y a des importations du reste du monde, c'est parce que ces productions, elles sont moins chères dans le reste du monde. Et donc, pour l'automobile, pour le chantier naval aux États-Unis, pour l'aéronautique, pour un certain nombre, même la défense, eh bien, il va y avoir des hausses de prix de leurs matières premières qui leur servent pour produire.
Marion Gaillard.
Oui, non, je voulais juste rebondir parce qu'effectivement, l'augmentation des droits de douane aux États-Unis sur les produits en provenance d'Europe va donner des ressources budgétaires au budget américain. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que nous, on va en riposte augmenter nos droits de douane et ça vient nourrir le budget de l'Union européenne puisque nous avons une politique commerciale commune, comme vous le rappeliez, et que donc les tarifs douaniers alimentent directement le budget européen. Donc, utilisons les milliards que nous allons tirer de nouveaux droits de douane pour augmenter l'aide à l'Ukraine ou la recherche et développement, par exemple, et attirer les chercheurs américains, par exemple. On en parlera sans doute tout à l'heure. Donc, nous aussi, ça nous fait un levier, d'une certaine manière.
Est-ce que vous comprenez, d'ailleurs, la façon dont cette liste de produits, 99 produits en tout états-uniens, a été établie par la Commission européenne pour taxer donc poulet, fruits, légumes, boissons alcoolisées, négligés, féminins, hosties. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi les hosties sont importées de l'Union européenne. Les vapoteuses, etc. Dans Politico, il est expliqué que c'est pour que les États républicains où l'on importerait le plus ces produits-là puissent dire à Donald Trump, ça suffit, il faut un peu lever le pied. Vincent Vicard, est-ce que vous avez une idée de la façon dont ces listes sont établies ?
Oui, alors c'est une volonté, une double volonté. D'une part, d'avoir une influence sur le processus décisionnel, le processus politique américain. Et donc, de cibler certains États clés, notamment des États républicains, de façon à ce que les élus républicains de ces États puissent faire pression sur l'administration Trump pour changer cette politique et ces droits de douane qui ont été imposés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut aussi limiter l'impact sur les consommateurs européens, parce que c'est les consommateurs européens qui vont payer aussi cette augmentation des droits de douane. Et donc, il y a certains produits sur lesquels il y a peu d'alternatives, et donc on ne va pas taxer les importations, par exemple, de gaz naturel liquéfié, parce qu'il y a peu d'alternatives, et ça va devenir difficile ça va coûter plus aux consommateurs européens. On est vraiment dans un jeu où mettre en place des représailles commerciales, c'est un message vis-à-vis des États-Unis, un message de fermeté dans le conflit commercial qui commence, parce qu'on voit bien qu'il y a des menaces d'escalader ce conflit commercial. Donc un message de fermeté, mais c'est coûteux, et c'est coûteux pour les consommateurs européens et les entreprises européennes. Donc on essaye aussi de limiter ce coût pour ces consommateurs.
C'est vrai, Marion Gaillard, que pour l'instant l'Union européenne s'est bien gardée d'annoncer qu'elle taxerait tous les produits énergétiques qu'elle importe des États-Unis.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il faut faire attention dans quel domaine on riposte, comme le disait Vincent Vicard tout de suite. Et sur l'énergie, le rapport Draghi rendu en septembre dernier 2024 avait bien pointé...
Mario Draghi.
Le rapport de Mario Draghi qui pointait le manque de compétitivité de l'Union européenne et notamment qu'une des faiblesses de l'UE est l'accès à une énergie chère, trop chère, par rapport à nos concurrents. Donc bien évidemment, il faut pas taxer le GNL. Et un des problèmes, c'est aussi à mettre dans une perspective géopolitique, c'est que pour se sortir des griffes de l'ours russe, on a réorienté nos importations de gaz naturel et d'énergie, parce qu'on a diminué évidemment nos importations d'hydrocarbures russes en riposte à l'attaque en Ukraine. Et donc on avait augmenté nos importations de GNL américain, et maintenant on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Donc on ne peut pas taxer ça, donc on cible effectivement un certain nombre de produits qui, un, font mal à l'économie américaine, deux, font mal politiquement, trois, font le moins mal possible aux consommateurs européens.
Vincent Vicard.
Ça traduit aussi une des faiblesses de l'Union européenne, qui est une des régions du monde qui n'a pas de ressources énergétiques sur son sol. On a très peu d'hydrocarbures, on doit importer le gaz, alors avant de Russie, maintenant en partie des États-Unis et puis aussi des pays du Golfe. Donc c'est une des dimensions qui est importante, et il me semble que justement dans la réponse qui est apportée, pas à court terme mais à long terme, justement à aller vers une économie décarbonée, développer les énergies renouvelables, ça fait partie de la solution, et c'est une des solutions qui est importante. Et il ne faut pas abandonner cette dimension de Green Deal, le pacte vert qui allait vers l'incitation à une décarbonation de l'économie, parce que ça réduit nos dépendances. Et dans un conflit commercial comme celui-ci, qui a priori est amené à durer au moins quelques mois, si ce n'est quelques années, puisque Donald Trump est au pouvoir au moins pour 4 ans, il me semble que c'est très important justement d'aller dans la réponse, de favoriser cette réduction des dépendances énergétiques vis-à-vis des États-Unis, mais de manière générale vis-à-vis des producteurs d'hydrocarbures.
Alors, quand Donald Trump avait déjà, lors de son premier mandat, imposé 25% de taxes douanières sur l'acier européen, 10% sur l'aluminium européen, c'était en 2018, il avait utilisé une loi sur le commerce de 1962 dont la section, alors c'est très précis, la section 232 justifiait ces mesures douanières par la mise en danger de la sécurité nationale. Est-ce qu'on sait si c'est à nouveau le cas, Vincent Vicard, s'il a fait appel à cette loi-là en particulier? Et dans un second temps, est-ce qu'on est capable de mesurer les conséquences qu'avaient eues ces mesures à l'époque, en l'occurrence pour la sidérurgie européenne?
Alors, je pense que c'est effectivement la même loi sur la sécurité nationale qui a été utilisée, et à l'époque ça avait été interprété comme ça, hein, c'est un contournement de l'esprit de ces règles-là, parce que la question de la sécurité nationale, c'est vraiment pour les questions de défense, alors que l'acier est utilisé en grande partie pour des industries qui sont pas des industries de défense. On a dit pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour un certain nombre de secteurs qui sont pas directement en lien avec des questions de sécurité nationale ou de défense. Donc, il a encore utilisé cet outil-là, qui est un contournement des règles du commerce international et qui vient affaiblir encore une fois ces règles du commerce international, qui sont quand même le fondement de l'organisation des échanges internationaux depuis au moins depuis 30 ans, mais même depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un élément supplémentaire de coup de boutoir contre ce système multilatéral qui arrive vraiment effectivement à bout de souffle a priori, et qui va avoir du mal à survivre.
Qu'on peut questionner par ailleurs, mais en l'occurrence, ce n'est pas la question.
Exactement, tout à fait. Mais en tout cas, c'est encore un élément en plus qui l'affaiblit. Sur l'effet qu'avaient eu ces droits de douane, oui, effectivement, il y avait eu un effet. Ça avait réduit les importations d'acier et d'aluminium. Ça avait augmenté la production aux États-Unis, et ça avait eu un effet sur les industries des partenaires commerciaux. Alors, il y a la Chine qui est souvent visée de ce point de vue-là, et il y a des surcapacités mondiales dans l'acier. Et d'ailleurs, on avait déjà eu des droits de douane à l'époque de George W. Bush au début des années 2000. C'est un secteur qui est structurellement en surcapacité du fait de la Chine, et donc qui a des problématiques qui vont au-delà justement de ces droits de douane. Et d'ailleurs, l'Union européenne, il y a une problématique qui se pose aujourd'hui. On a des mesures de sauvegarde, donc des mesures qui nous permettent de nous protéger contre les importations d'acier chinois. Et une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est comment les autres producteurs vont réorienter leurs exportations qui allaient vers les États-Unis. Est-ce qu'elles vont débarquer sur le sol européen dans un secteur qui est déjà fragilisé?
Dans la première séquence, le premier mandat de Donald Trump, quand il avait déjà imposé ses taxes, justement les exportations européennes d'acier et d'aluminium vers les États-Unis étaient passées de 4,5 millions de tonnes à 3,5 millions. Et comme de nombreuses régions du monde également touchées par ces taxes avaient réussi à trouver des débouchés vers l'Europe, eh bien la production sidérurgique européenne avait dégringolé avec des effets dévastateurs en termes d'emploi. Dans la sidérurgie, en 2024, 18 000 emplois ont été détruits en Europe. Marion Gaillard, cet argument de l'emploi, que ce soit côté européen ou côté États-Unis, en fait, il revient pour se remettre à l'échelle humaine. Ce ne sont pas que des chiffres, la politique commerciale, elle est cruciale et aussi dans les discours de Donald Trump.
Oui, en Europe, c'est 10 millions d'emplois actuellement qui dépendent du commerce avec les États-Unis. On est réciproquement, vous l'avez dit, premier partenaire commercial l'un de l'autre. Donc évidemment, ça touche une masse extrêmement importante et derrière, il y a des gens qui travaillent. Et on pourra y revenir, mais c'est aussi un des problème soulevé quand on parle du boycott éventuel, c'est que si je décide demain d'arrêter de commander sur Amazon, bien entendu, ça peut pénaliser Amazon, mais ça va aussi pénaliser les emplois français de gens qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi que ça permet de développer davantage nos industries sur notre territoire, ou si je reprends l'exemple d'Amazon, de dire, il y a d'autres plateformes de vente en ligne qui peuvent se développer en Europe, par exemple en France, la Fnac, qui le fait déjà, et qu'on pourra développer ça et avoir des Français qui travaillent pour la Fnac au lieu de travailler pour Amazon. Donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une imbrication très forte, mais on peut aussi répondre à ça et profiter, entre guillemets, d'une forme de nouveau protectionnisme que personne ne souhaitait, mais on y est, pour éventuellement réindustrialiser un certain nombre de choses en Europe. Et puis, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur le pacte vert. Je crois qu'un des problèmes, c'est quand même parfois une réaction un peu court-termiste et on est en train de lâcher toute une partie du pacte vert, alors que c'est l'avenir et c'est l'avenir de notre indépendance, ce sont des emplois, et donc il faut surtout pas lâcher ça et arriver à jouer sur tous les tableaux, et j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de mal à le faire.
Vous avez évoqué des mesures de boycott en disant oui. Si un jour j'arrête de commander sur Amazon, ça pénalisera peut-être Amazon. Je suis pas sûre si vous le faites seul, ça pénalisera
beaucoup.
Non, mais
si chacun
bien
et chacune.
Sûr, bien sûr. Mais en tout cas, est-ce que vous avez vu, Marion Gaillard, des mouvements de boycott se mettre en place, des appels au boycott au niveau européen, des initiatives, j'allais dire citoyennes, mais en tout cas qui ne viennent pas des institutions?
Oui, ça a été beaucoup relayé par la presse, notamment dans les pays nordiques qui sont en première ligne. Donc il y a eu un groupe Facebook au Danemark. Alors on peut rigoler en disant c'est un peu incohérent d'appeler au boycott sur Facebook, mais d'un autre côté c'est l'arroseur arrosé et on peut aussi y voir une forme d'ironie. Mais au Danemark, il y a donc ce groupe Facebook qui s'est organisé, ça a été suivi en Suède, c'est fait au Canada, beaucoup également. Donc on est en train de réfléchir à tout cela et il faut bien comprendre qu'en dehors des ripostes par les institutions, chacune et chacun d'entre nous, on a une partie de la solution par effectivement une forme de boycott. Ça peut être chacun à son échelle, de passer de Google à Ecosia, de ne pas commander sur Amazon, d'arrêter de boire du Coca-Cola, c'est ce qu'ils ont mis en place au Danemark en disant il y a un Coca 100% danois. Bon, mais tout ça c'est des emplois européens parce que souvent les biens américains qu'on pourrait boycotter sont en partie fabriqués aussi sur le territoire européen. Donc c'est pas aussi simple que ça évidemment, mais il y a le symbole derrière quand même, le fait que des populations peuvent se mobiliser pour dire non. Et quand on dit non, c'est pas non seulement à la guerre commerciale menée par Trump, c'est non surtout, j'allais dire, et c'est le cas au Danemark, à la géopolitique de Trump et à la question ukrainienne en réalité.
Vincent Vicard.
Oui, il y a un très bon exemple. Il me semble, il n'y a pas eu d'appel officiel au boycott, mais Tesla a connu des baisses très importantes de ses ventes en Europe, au Canada aussi. On parle de 25% de baisse des ventes sur les deux premiers mois de l'année dans plusieurs pays européens, 50% dans certains pays européens.
Et vous pensez que c'est lié?
A priori, oui, il y a au moins une partie de l'explication qui est liée à des consommateurs du fait des prises de position d'Elon Musk, de sa proximité avec Donald Trump et de ses prises de position en faveur des extrêmes droites européennes. Donc il y a eu des effets extrêmement importants. En Allemagne, il y a des effets extrêmement importants. Et donc, il me semble qu'il y a, c'est pas le seul levier, c'est un levier supplémentaire des consommateurs. Ça a un effet limité et comme ça a été rappelé par Marion Gaillard, effectivement, c'est des emplois européens. Hein. Les Tesla, elles sont produites à Berlin et à Shanghai, celles qui sont vendues en Europe, pas aux États-Unis. Mais il n'empêche que ça a une influence sur le cours de bourse et donc sûrement sur Elon Musk et donc sur. On connaît sa proximité avec Donald Trump, donc ça peut avoir une influence.
On la connaît. Je la cache pas.
Mais voilà, ça peut participer aussi d'une réaction européenne en plus, et ça peut pas se substituer à une réaction des gouvernements.
Marion Gaillard, vous vouliez ajouter quelque chose sur Tesla?
Non, pas du tout, pour dire oui, j'avais oublié de le mentionner, oui. Et donc c'est vraiment très important, parce qu'on voit quand même que les gens prennent le pouvoir, réagissent, et encore une fois, pas seulement, je crois qu'ils réagissent moins sur « oh là là, ils nous taxent », mais ils réagissent plus sur « oh là là, il soutient Alice Weidel de l'AFD en Allemagne, ou il abandonne l'Ukraine et il nous met en position de fragilité face à Vladimir Poutine ». Donc c'est pas tellement finalement les réactions citoyennes en réaction à la question commerciale, mais plus en réaction à la question politique et géopolitique. Mais tout ça est très très lié.
Vous évoquiez, Vincent Vicard, ces usines Tesla qui sont sur le continent européen et plutôt à destination du marché européen, mais il y a aussi en Europe beaucoup d'entreprises états-uniennes qui fabriquent ou produisent en Europe et ensuite réexportent vers les États-Unis. C'est le cas des laboratoires pharmaceutiques qui sont installés en Irlande, par exemple. Est-ce que l'Irlande ou tous ces pays où des entreprises américaines sont installées et réexportent vers les États-Unis vont être davantage pénalisées ou moins pénalisées par ces taxes douanières?
Alors, c'est encore une question qui est posée. Voilà, pour l'instant, on est sur des taxes douanières, sur des secteurs limités, hein, l'acier et l'aluminium. Mais il y a menaces d'aller bien au-delà.
Voilà, qu'il irait sans doute au-delà.
Effectivement, alors, il n'a pas beaucoup évoqué le secteur pharmaceutique. Et pourtant, on a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques américaines qui sont localisées en Irlande, qui produisent en Irlande, mais qui sont aussi localisées en Irlande pour des raisons fiscales. Et ça, voilà, c'est historiquement, il y a beaucoup d'entreprises, alors du secteur pharmaceutique, mais aussi de la tech. Enfin, Apple, typiquement, a une très large partie de ses profits qui sont localisés en Irlande, mais ne produit pas en Irlande.
On en parlera demain, d'ailleurs, de la tech.
Elle produit en Chine. Donc voilà, il y a un sujet là-dessus qui est particulièrement important. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les lois votées par les États-Unis qui ont permis à ces entreprises pharmaceutiques de se localiser en Irlande, de produire en Irlande pour éviter des impôts. Et donc, c'est dans les mains, finalement, de l'administration américaine et du Congrès américain de voter des lois qui empêcheraient ces délocalisations de profits qui ont entraîné ensuite, effectivement, de la production. Donc, de ce point de vue-là, l'Irlande, elle est exposée. C'est une réalité. Elle est assez exposée, effectivement, à l'imposition de droits de douane par les États-Unis. Mais il y a d'autres pays, par exemple l'Allemagne, qui a un excédent commercial extrêmement important, l'Allemagne. Et Donald Trump parle beaucoup d'automobiles. Alors, on a aussi, il y a aussi des importations d'automobiles européennes en provenance des États-Unis, notamment de véhicules hybrides, en partie produits par des producteurs européens. Mais il n'empêche que, effectivement, étant donné la focalisation de Donald Trump sur l'automobile, un pays comme l'Allemagne est particulièrement exposé à ces sanctions commerciales.
L'Allemagne que vous connaissez bien, Marion Gaillard, on dit même que ces mesures vont contribuer à plomber encore les budgets qui sont déjà lourdement endettés. En tout cas, vous vouliez réagir à ce que disait Vincent Vicard.
Oui, alors sur l'Allemagne, rapidement, c'est effectivement un défi énorme sur les exportations de manière générale, automobile mais de manière générale, puisque la croissance allemande est largement tirée par les exportations, donc ça va être un défi, mais j'ai l'impression, toute chose égale par ailleurs, qu'il y a quand même une volonté politique extrêmement forte qui est en train de s'exprimer outre-Rhin. Mais effectivement, Vincent Vicard a tout à fait raison. Il y a d'autres leviers que la politique commerciale. On a fait des accords, notamment le gouvernement irlandais, pour que des entreprises américaines s'installent en Irlande pour défiscaliser, parce que l'Irlande est un paradis fiscal au sein de l'Union européenne. La Commission s'est attaquée depuis déjà une dizaine d'années à ces problématiques en contraignant l'Irlande à rembourser Apple, ce qui fait que ça enlève cet attrait pour les entreprises américaines. Mais donc, on peut aussi, nous...
L'inverse, vous le direz, oui. Apple a remboursé l'Irlande.
Non, l'Irlande, non, on peut pas demander à Apple de rembourser l'Irlande, mais la Commission européenne a demandé à l'Irlande de rembourser Apple, donc ça veut dire que elle ne peut plus pratiquer cette espèce de flat tax qui est du dumping fiscal au sein de l'Union européenne. Donc il y a d'autres leviers, et ces leviers, c'est notamment les services, parce que en réalité, nous sommes déficitaires sur les services. Donc le commerce avec les États-Unis, l'Europe exporte plus de biens qu'elle n'en importe, et donc les États-Unis ont un déficit commercial sur les biens. Mais nous avons un déficit commercial sur les services, et donc nous pouvons taper là où ça fait mal, sur les services. On ne peut pas mettre des droits de douane sur les services. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut commencer d'abord par appliquer de manière ferme, sans se laisser intimider, les outils juridiques à notre disposition. Je parle du règlement général sur la protection des données de 2018, mais aussi, bien sûr, vous en parlerez dans la prochaine émission, du DMA et du DSA, c'est-à-dire Digital Market Act et Digital Services Act, qui ont pour but de réguler les plateformes, et pas seulement américaines, TikTok, Alibaba aussi, mais beaucoup américaines. Et donc, ça, on a des outils Et c'est bien ça qui enquiquine la tech américaine, justement. C'est qu'on les régule. Et donc, il faut commencer par appliquer ça pour continuer, parce qu'il y a une forme d'intimidation, je pense. Et donc, dire, bah, vous allez pas nous intimider et on va utiliser ces outils. Et juste pour terminer là-dessus, par exemple, on pourrait aussi aller un petit peu plus loin et dire, on interdit aux plateformes américaines comme X, par exemple, d'opérer en Europe s'il n'y a pas de modération. Parce que ça fait partie de nos principes, la modération. Et donc là, on a aussi un moyen de taper.
Alors, on parlera vraiment plus précisément demain dans l'émission. Demain, toute l'émission sera consacrée aux services numériques des géants de la tech. Vincent Vicard, sur les outils dont dispose l'Union européenne pour... Il n'y a pas que les droits de douane. Vous avez commencé tout à l'heure à évoquer très rapidement un instrument anti-coercition. Quelle est la palette d'outils dont dispose aujourd'hui l'Union européenne pour rétorquer?
C'est une des grandes différences avec la première présidence de Donald Trump. Parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne, l'Union européenne de manière générale, a développé des outils qui lui permettent de répondre de manière beaucoup plus large à ces droits de douane et ce qu'on peut appeler finalement des sanctions commerciales. Parce qu'on voit, faut quand même le rappeler, hein, que l'objectif économique derrière ces droits de douane, il commence à devenir plus difficile à percevoir. Et de plus en plus, on voit des objectifs politiques. On a parlé du Groenland vis-à-vis du Canada. On voit assez mal les objectifs économiques, de plus en plus des objectifs politiques derrière. Donc, il faut appeler aussi ça comme ce que c'est-à-dire de la coercition. Utiliser des outils, des liens économiques de façon à influencer les décisions de partenaires de pays étrangers. Et c'est bien là-dedans que Donald Trump est, et notamment, je rejoins assez Marion Gaillard, notamment dans les secteurs digitaux, il y a des conflits de longue date sur les secteurs digitaux, comment taxer ces grandes entreprises américaines qui ont émergé lors de la première présidence de Trump et qui vont réémerger. Mais donc on a de nouveaux outils, et notamment on a un outil qui est particulièrement important, c'est l'instrument anti-coercition. C'est un instrument qui a été fait pour ne jamais être utilisé. Et initialement...
Dissuasion comme le nucléaire.
Exactement, dissuasion, qui offre une palette d'outils, une palette d'interventions qui est extrêmement large et qui peut aller extrêmement loin. Et donc, justement, avoir à disposition cette possibilité, cet ensemble de cette boîte à outils devait permettre de ne jamais être soumis à une coercition. On visait d'abord, on avait plutôt en tête la Chine à ce moment-là, mais on pourrait l'utiliser effectivement dans le cas des États-Unis. Ça permet quoi? Ça permet de mettre des droits de douane, ça permet de taxer les importations, de mettre des taxes sur les importations de services, ça permet éventuellement de restreindre l'accès au marché, ça permet de suspendre éventuellement les droits de propriété intellectuelle. Ça permet de limiter l'accès au marché pour les entreprises américaines, d'empêcher certains investissements sur le marché européen. Donc on a toute une palette d'outils qui nous peut permettre de toucher et les importations, mais aussi de manière beaucoup plus large les entreprises américaines sur le territoire européen.
Cet instrument-là avait été, dites-vous, à l'origine conçu en pensant à la Chine. Marion Gaillard, depuis le premier mandat de Donald Trump et les premières mesures douanières mises en place à ce moment-là, quels autres outils l'Union européenne a-t-elle développé vraiment en lien avec ces premières mesures?
Non, c'est vraiment c'est ce qui a été dit. Hein. Ça a été développé à partir de 2021 dans la pensée, dans la réflexion, et c'est adopté depuis 2023. Donc c'est pas lié à la première présidence Trump. C'est pas lié du tout à ça. C'est vraiment lié à la Chine au départ, parce que la Chine avait menacé et utilisé des mesures de coercition contre la Lituanie qui s'était rapprochée de Taïwan. Donc on est bien dans ce que Vincent Vicard disait, c'est-à-dire on utilise l'économie et le commerce, mais en réalité à des fins politiques et géopolitiques pour faire pression sur des pays ou répondre à des problématiques géopolitiques, Taïwan pour la Chine. Et c'est ça qui a motivé ce nouvel instrument, qui effectivement peut, par exemple, faire en sorte que les entreprises chinoises ou américaines ne puissent plus postuler pour des marchés publics européens. Et ça, ce serait extrêmement important, parce que ça veut dire que quand on passe un marché public, eh bien, on interdit aux entreprises américaines de soumettre leurs dossiers. Donc c'est quand même effectivement une forme de dissuasion assez importante. Et d'ailleurs, certaines entreprises américaines commencent vraiment ouvertement à critiquer la politique de Trump. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Tout ça n'a pas de sens économique. Le but, il est politique et géopolitique, et il est aussi de la rhétorique vis-à-vis des électeurs. Tout ça est du marketing politique destiné à séduire un électorat largement. Et donc, il faut comprendre ça, encore une fois, de manière tout à fait plurifactorielle. Il y a une incohérence, ou en tout cas Oui, il y a une forme d'incohérence dans cette politique économique de Donald Trump, à la limite. Et il se tire une balle dans le pied, et notamment le président de la Chambre du commerce américain dans l'UE a dit publiquement qu'il était contre et que ça allait nuire à l'économie américaine.
Alors, peut-être qu'il faut ne pas être naïf sur les volontés politiques, les visées politiques de ces mesures. Néanmoins, je pense qu'en économie, on n'est jamais trop naïf, justement. Et comme je n'y connais rien en économie, ça me permet de toujours poser la question, à mon avis, qui est la seule qui vaille en économie, qui est pourquoi ? Et pourquoi, alors, est-ce qu'il faudrait absolument rétorquer ? Voilà, depuis le début de l'émission, on parle des mesures, des contre-mesures prises par l'Union européenne. On se dit, voilà, ils nous attaquent sur tel et tel secteur, on va l'avoir sur tel ou tel autre. Et pourquoi ? En fait, pourquoi est-ce que on se dirait pas tout simplement, on va surtout aller voir du côté de tous les Européens qui sont là, ceux qui peuvent compenser la perte de telle importation, et puis tout simplement aussi se chercher éventuellement d'autres partenaires si on ne peut pas produire tout en Europe.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il n'y a pas de bonne réponse économique en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que en mettant en place des représailles, on va toucher certains acteurs américains. On voit bien que Donald Trump a fait assez peu de cas finalement des consommateurs américains parce que l'augmentation des droits de douane, ça va les toucher, ça va augmenter les prix aux États-Unis et ça va toucher les consommateurs américains. On a l'impression qu'a priori il fait assez peu de cas des consommateurs américains, mais il fait plus de cas des producteurs américains. Et pour les producteurs américains, certains secteurs sont très dépendants de l'Union européenne. Et donc, de ce point de vue-là, on rentre dans un jeu de négociation, où on va essayer d'influencer aussi avec les mesures de représailles, on va essayer d'influencer certaines parties de la population américaine, et notamment les entreprises, qui elles-mêmes vont pouvoir faire pression éventuellement sur l'administration Trump et les ramener à la raison, ou en tout cas limiter l'escalade de ce conflit commercial. Donc il y a cette idée derrière, et puis, faut bien dire, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump aujourd'hui. Il a beaucoup parlé de déficits commerciaux. Alors, vis-à-vis de l'Union européenne, il y a un sens. Il y a effectivement un déficit commercial sur les biens qui est non négligeable, de l'ordre de 150 milliards d'euros. Donc, c'est un déficit commercial qui est non négligeable. Mais il a mis des droits de douane plus importants vis-à-vis du Canada, avec lequel il y a un déficit commercial qui est négligeable.
Pour d'autres raisons, parce qu'il ne ferait pas assez pour la lutte contre le trafic de fentanyl.
Tout à fait. Mais alors, il y a très peu de fentanyl qui passe par cette frontière-là, il y a très peu d'immigration qui passe par cette frontière-là. Donc on voit bien que c'est assez difficile quand même de voir quels sont les réels objectifs, à part, il y a des objectifs vis-à-vis des électeurs, je suis assez d'accord, un message vis-à-vis des électeurs, et puis il y a une volonté, à mon sens, isolationniste, on n'a plus d'alliés, on n'a plus de partenaires commerciaux, mais on a des États avec lesquels on va passer des deals et obtenir des choses en échange de l'accès au marché américain ou d'autres choses. Mais en tout cas, on est plus dans cette logique-là, logique transactionnelle ou une logique transactionnelle plus large, pas seulement économique, mais qui va au-delà qui reste à comprendre. Mais donc, à mon sens, de ce point de vue-là, on est un petit peu obligé de rentrer dans cette confrontation. Parce que ne pas répondre, il me semble que c'est pris du point de vue de l'administration américaine plutôt comme un signe de faiblesse et ce qui peut conduire rendre plus probable une escalade et des demandes supplémentaires. Si on savait quelles étaient les demandes, on pourrait négocier, mais on ne sait pas quelles sont les demandes.
Les droits de douane fixés par les États-Unis sur les importations au Canada dont vous venez de parler, mais aussi au Mexique, ont aussi des répercussions en Europe, en l'occurrence en Allemagne, puisque Volkswagen, par exemple, fait former ses produits intermédiaires au Mexique avant de les revendre aux États-Unis. Plus de 2000 entreprises allemandes ont des succursales au Mexique. Vous disiez tout à l'heure, Marion Gaillard, qu'il y a aujourd'hui en Allemagne, outre-Rhin, une volonté de, je ne sais plus comment vous avez dit, pas hausser le ton ou reprendre les choses en main, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et néanmoins, les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas aller très loin, puisque la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne.
Oui, mais compétence exclusive de l'Union européenne ne veut pas dire pas de pouvoir pour les États, parce que qui décide dans l'Union européenne ? Ce sont largement les États dans le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne qui est le Conseil des ministres. Donc par exemple, en politique commerciale, c'est la Commission qui négocie, donc le commissaire au commerce extérieur qui négocie, et ce en vertu du traité de Rome depuis l'origine en 1957, mais elle négocie sur un mandat qui a été voté à la majorité qualifiée par les États membres. Et ensuite, tout accord commercial doit être ratifié soit à la majorité qualifiée ratifiée soit à l'unanimité en fonction des domaines par les États membres. Donc les États membres ne sont pas démunis. Par contre, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, à la fois les mêmes intérêts économiques et commerciaux et les mêmes intérêts géopolitiques. Et on voit que, par exemple, la Pologne, qui est en première ligne face à la Russie, elle aussi, entre la volonté d'une souveraineté européenne et quand même de continuer à faire le dos rond vis-à-vis des États-Unis. Et vous évoquiez pourquoi faut-il répondre ? Parce que dans la première présidence Trump, nous avons largement fait le dos rond. Pas complètement, mais on n'a pas du tout riposté de manière aussi vive que ce qu'on est en train de faire là. Et on le fait là à la fois parce que Trump n'est pas le même et parce qu'en plus il y a l'enjeu de l'Ukraine. Et je suis complètement d'accord avec ce que Vincent Vicard vient de dire. Ne pas répondre, c'est inciter Donald Trump à aller plus loin. Parce qu'il est dans cette logique. Parce qu'il ne comprend, comme Vladimir Poutine d'ailleurs, que la réponse, la riposte, la force. Et donc, si on ne fait rien, on va aller dans une escalade où Trump va aller toujours, toujours plus loin. Donc c'est très important. Et on a d'autres outils encore. C'est l'épargne. Parce que un des problèmes de l'économie américaine, c'est la dette. Et l'épargne européenne finance largement la dette américaine. Et Mario Draghi et Enrico Letta, dans leurs deux rapports, là aussi on dit, il faut créer un outil d'épargne européen pour drainer l'épargne européenne vers les investissements en Europe plutôt que d'aller financer des fonds de pension américains. Ou d'acheter des bons du Trésor américain. Donc, que ce soit en matière de numérique, en matière de défense, en matière de plateforme numérique, ou en matière d'épargne, ce qui manque, c'est de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe paye la non-Europe. C'est la fragmentation, le problème. Et le problème de la fragmentation, on l'a pointé depuis plus d'un siècle. Dans Keynes, 1919, les conséquences économiques de la paix. Dans 1929, le discours d'Aristide Briand devant la Société des Nations, on parle de morcellement économique de l'Europe et de ses conséquences. Et un siècle après, on en est là. Alors, on en est là. On a fait énormément de progrès. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc, on a un marché européen encore trop fragmenté. Et la réponse est, dans tous les domaines, plus d'Europe.
Plus d'Europe et plus de pays européens, mais non membres de l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, parmi les nouveaux partenaires qui sont évoqués par le commissaire européen à l'agriculture, par exemple, pour dire on va compenser le fait qu'aujourd'hui, on va importer moins de produits agricoles des États-Unis et donc on va se tourner vers d'autres puissances agricoles européennes comme l'Ukraine. C'est vraiment quelque chose qu'on entend de la bouche de Christophe Hansen, aujourd'hui commissaire luxembourgeois de l'agriculture. Vincent Vicard, qu'est-ce qu'on peut penser de cette proposition qui est faite, de se tourner vers un pays qui est en guerre, vers lequel on a déjà des accords commerciaux depuis le début de la guerre, mais qui vont arriver à échéance et qui n'ont pas du tout les mêmes normes de production que les pays européens ?
Alors, c'est effectivement une question, cette question des normes de production et de la concurrence avec les producteurs européens. C'est une question qui s'est beaucoup posée en France quand on a parlé du Mercosur et donc qui reste posée. Voilà, il faut déterminer sur quels produits on peut avoir une assurance qu'il y a des normes qui sont respectées et qui sont similaires et que ça fait pas une concurrence trop importante à nos producteurs européens. Il n'empêche que de manière générale, à part sur certains produits très précis sur lesquels il faut être vigilant à mon sens, sur la plupart des produits, finalement, les importations représentent une part assez faible de la production européenne. Et donc, il me semble que si on veut trouver des alternatives au marché américain, il faut d'abord les chercher sur le marché européen. Et c'est se tourner vers la demande intérieure européenne, stimuler la demande intérieure européenne. Et il me semble que de ce point de vue-là, les décisions récentes en Allemagne d'un fonds pour les infrastructures, de relâcher le frein à la dette, elles vont être particulièrement importantes parce que c'est ça, là, une des réponses à moyen terme et long terme, c'est de se reposer plus sur la demande interne européenne. L'Union européenne, c'est un ensemble qui est trop industrialisé, qui produit plus qu'elle ne consomme. Et donc, qui génère des excédents commerciaux et c'est aussi une partie des raisons pour lesquelles on a cette réaction du point de vue des Américains. C'est pas que Donald Trump, la question des déséquilibres commerciaux, des déficits commerciaux auxquels participent l'Union européenne et la Chine, c'est un sujet politique bien avant Donald Trump. C'était déjà un sujet politique sous Obama, ça l'était sous Joe Biden, sous des formes différentes, mais il n'empêche que c'était des sujets politiques importants. Et donc, résoudre ça, se concentrer, en tout cas, se tourner vers la demande intérieure européenne, c'est un des éléments de réorientation de l'Europe et de rééquilibrage au niveau mondial.
Et c'est peut-être aussi une question politique, puisque sinon l'Union européenne se tourne vers d'autres partenaires du type l'Inde, qui n'a pas du tout les mêmes normes environnementales, sanitaires ou sociales, et qui depuis plusieurs années a dérivé vers l'illibéralisme, comme on dit, de Narendra Modi. Ursula von der Leyen y était pourtant il y a trois semaines avec 21 commissaires européens. On parle de relancer absolument le Mercosur, même si les agriculteurs et notamment français sont tout à fait contre. Peut-être Marion Gaillard, une petite conclusion sur cette première partie. Je voyais que vous réagissiez à ce que disait Vincent Ricard.
Je suis d'accord, parce que là aussi, limiter un peu le commerce international, ça va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique aussi. Donc ça, tout ça peut être en même temps une forme d'opportunité. Donc pour à la fois pour le climat et pour nos propres producteurs.
In life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want, that's what I want, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money.
Flying Lizards et sa chanson Money, That's What I Want. C'est une reprise qui date de 1979, puisque ce titre a été chanté à l'origine par l'américain Barrett Strong et repris par les Beatles en 63, je crois. Les Flying Lizards l'ont repris en 79 et ça dit à peu près: ton amour me donne un tel frisson, mais ton amour ne paiera pas mes factures. Je veux de l'argent, c'est ce que je veux.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le principal impact des politiques de Donald Trump sur mon travail, c'est qu'elles ont créé un climat total d'incertitude et de peur. Et même si j'ai toujours un emploi, même si nous recevons toujours des fonds, il n'y a aucune information sur la poursuite ou non des subventions. Par exemple, durant le premier mandat de Trump, nous ne pouvions pas utiliser le mot changement climatique dans nos demandes de subventions. Nous devions trouver des formules alambiquées. Et je pense que maintenant, c'est encore pire. Comment parler des femmes sans dire femmes ?
Elle aussi a besoin d'argent pour travailler. Cette chercheuse américaine spécialiste des maladies infectieuses et des épidémies, qui travaille notamment sur la santé des mères et des enfants en Afrique, a tout récemment posé ses bagages à l'université Aix-Marseille. Elle répond ici à France Info. Soumis à de nombreuses pressions, censure, licenciements, certains chercheurs états-uniens ont déjà choisi de s'exiler en Europe, où ils sont reçus notamment en France. Bonjour Emmanuel Perestis-Rand.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne des États-Unis, enseignante chercheuse à Toulouse 2 et vous êtes l'une des initiatrices de ce mouvement Stand Up for Science. Est-ce que vous avez déjà été contactée par des chercheurs aux États-Unis que votre soutien intéresse ?
Alors, c'est intéressant parce qu'on est en lien avec le mouvement Stand Up for Science aux États-Unis, qui a été lancé par des jeunes chercheurs qui justement essayent de résister un peu à ces attaques. Mais je dirais que en fait, on est face à des collègues qui sont un peu sidérés et terrorisés. J'en ai régulièrement effectivement en ligne par différents moyens, mais c'est un peu difficile parce qu'ils peinent à s'exprimer par des canaux avec leur mail officiel ou sur les réseaux sociaux, certains ponctuellement. Qu'on peut voir sur Blue Sky par exemple, mais en fait ils sont dans l'attente et dans l'incertitude, comme vient de le montrer votre son. Je pense qu'il y en a quelques-uns, et notamment nos collègues qui sont en post-doc ou en poste aux États-Unis, mais qui ont fait leur formation, une partie de leur scolarité en France ou en Europe, qui ont été chercher des post-docs ou des postes aux États-Unis parce que voilà, le système états-unien est le plus gros système de recherche mondial. C'est nécessaire aussi pour avoir un poste fixe de passer par des post-docs à l'étranger. Et là, qui se trouvent dans une situation soit incertaine, soit ils ont été licenciés, soit leur projet de recherche ou leur financement de thèse ont été coupés, et qui effectivement cherchent des solutions de repli. Après, pour l'instant, nos collègues états-uniens, ils espèrent en fait que l'illégalité, l'anticonstitutionnalité des actions du gouvernement Trump vont être mis au jour et peut-être récupérer leur financement. Donc, il y a un sentiment de tétanisation, de sidération. Et voilà, à part quelques exemples, effectivement, qui commencent déjà à contacter les universités qui proposent des plans, on est plutôt sur la grande question: que faire et comment résister.
Parmi les universités ou les grandes écoles qui proposent quelque chose, il y a le HESS. Romain Huret, son directeur, a lancé le programme Make Science Great Again. L'université Aix-Marseille, qui a débloqué 10 millions d'euros pour accueillir une quinzaine de chercheurs, qui a déjà reçu plus de 50 candidatures, selon un article de Libération, qui explique aussi que l'université a travaillé avec la Chambre de commerce et d'autres acteurs locaux pour proposer des emplois aux conjoints des chercheurs. Les chercheurs en tant que tels, quel genre de statut, de contrat peuvent leur être proposés ?
Oui, alors justement, ça c'est une grande question, et moi j'avoue, je suis pas dans les instances de décision de ces universités, et je pense que c'est un gros problème, c'est-à-dire que si, étant donné l'état du système de recherche français, si on veut aller au-delà d'effets d'annonce et de l'accueil de quelques stars qui vont coûter cher mais qui vont être très ponctuels, si on veut vraiment aider nos collègues, il faut vraiment penser en profondeur non seulement l'accueil de ces collègues qui vont en avoir besoin, mais plus largement comment est-ce qu'on fait à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, et si possible dans ce dialogue transatlantique, peut-être mondial, pour redonner les conditions d'une recherche. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, se focaliser sur l'accueil de quelques-uns et leur statut un peu privilégié, de quelques élus auxquels on va pouvoir offrir refuge, ça paraît, quand on connaît l'état de l'université française, à la fois paradoxal, voilà, ou un peu cynique, parce qu'en fait, on manque nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on envoie nos jeunes chercheurs faire des post-docs aux États-Unis parce qu'on n'a pas de place pour eux, ou bien on les envoie valider ça. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment ne pas se payer de mots et réfléchir très concrètement si vraiment on veut aider et déployer cette solidarité. En réalité, il faut qu'on mettre les moyens, et en fait, en réalité, on a l'université française est en pleine crise. Là, il y a Paris 1 donc le département de sciences politiques s'est mis au chômage technique parce qu'ils n'ont plus les moyens de travailler.
Il vient de perdre 50% de son budget de recherche, et leurs IUFR, donc les unités de formation et de recherche, 40% de leur budget de fonctionnement. Donc syndicats de l'enseignement supérieur, s'ils saluent l'initiative prise pour accueillir les collègues états-uniens, se disent néanmoins surpris qu'on puisse débloquer de tels moyens dans un contexte d'austérité budgétaire dont pâtissent tous les enseignants. Est-ce que à chaque fois que se met en place ce genre d'accueil, ce sont les mêmes ressources que le programme PAUSE, qui avait été lancé en 2017 pour accueillir des scientifiques et artistes en exil ?
Oui, je pense qu'on pense à ce type de programme qui est temporaire, mais qui évidemment est bienvenu. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut exercer cette solidarité. Mais il faut pas en faire un programme de communication. Le programme PAUSE, il a baissé dans son accueil l'année dernière et cette année. Donc, il faut effectivement le renforcer. Et effectivement, si on a des collègues qui ne se sentent en danger ou qui peuvent pas continuer leur travail, mais je pense qu'il faut éviter de se payer de mots ou d'en faire l'opportunité de développer ce système de concurrence internationale, comme quoi si on prend les meilleurs chercheurs, ça va être mieux pour notre science française. En fait, non, c'est une coopération, c'est tout un écosystème, et cette idée de la construction de la recherche et de la délibération de l'esprit critique comme quelque chose qu'on a en commun, qu'il faut défendre. Donc je pense que là, on a aussi Stand Up for Science, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut aider nos collègues, les associations professionnelles, leur donner de l'énergie, leur donner des ressources militantes, et c'est complémentaire de cette question de l'accueil et de la solidarité.
Comme avec les chercheurs syriens, afghans, ukrainiens, russes, soudanais, palestiniens, qui ont bénéficié de ce programme PAUSE depuis 2017. Alors ne pas faire, à vous entendre, comme on l'entend parfois, parfois une sorte de fuite des cerveaux inversée. C'est pas ça la démarche. Est-ce que d'autres universités à l'échelle européenne, est-ce qu'on peut réfléchir à une démarche européenne néanmoins? En tout cas, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que à l'échelle européenne, des universités réfléchissent en réseau à un accueil plus large d'universitaires du monde entier et notamment états-uniens?
Oui, parce que bon, on n'a pas mentionné, il y a le cas de l'Argentine hein, qui connaît aussi un peu ses coupes et cette censure de la recherche.
Avec Ravier, bah, vous accueillez des chercheurs argentins, latino-américains dans votre laboratoire.
Oui. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est l'échelle européenne, je pense qu'elle est tout à fait nécessaire pour cette réflexion. Moi, je suis pas dans les instances de discussion, mais je sais que aussi à l'échelle européenne, les universités connaissent d'énormes difficultés. En ce moment, il y a une crise énorme en Grande-Bretagne, hein, en Angleterre. Les universités ont des problèmes très graves de financement. Donc je pense que c'est une réflexion d'accueil, mais aussi de réflexion sur les moyens qu'on met dans notre système universitaire et de formation et de recherche qu'il faut entreprendre.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on avait consacré une série à la recherche sous pression dans Culture Monde. Elle est en effet sous pression partout dans le monde aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Perez-Tisserand d'avoir été avec nous. Un mot, vous, Marion Gaillard, sur ces chercheurs que l'on accueille.
Juste pour dire, effectivement, je suis d'accord, il ne faut pas se payer de mots. Il y a un mot qui arrive sur le devant de la scène, c'est le financement. Ça fait 25 ans que dans la stratégie de Lisbonne, on a dit dans l'Union européenne, il faut augmenter les fonds pour la recherche. On ne l'a pas fait. Cela a été repointé par le rapport Draghi, encore une fois, en septembre. Donc, il est urgent de mettre l'argent. Et donc, le grand plan d'emprunt qui est évoqué par Emmanuel Macron pour la défense depuis 2022 et encore plus maintenant, c'est-à-dire refaire ce qu'on a fait pour le Covid, mais pour la défense. Il faut le refaire pour la défense, mais il faut le faire pour tout le reste. C'est-à-dire, il faut un grand emprunt dans une stratégie globale de résistance à la fois à la Russie, mais aussi aux États-Unis, et donc mettre de l'argent dans la recherche, notamment, mais aussi dans la transition verte, etc. Donc je pense qu'elle a tout à fait raison, et la clé, c'est le budget.
Vincent Vicard ?
Non, oui, effectivement, la situation, je pense que c'est important de souligner la situation des universités aujourd'hui. Effectivement, on manque de budget, donc effectivement, il faut accompagner, il faut soutenir nos collègues aux États-Unis, mais les capacités pour les accueillir, elles restent limitées et elles posent la question fondamentale des budgets de la recherche et de l'université de manière générale et des conditions de travail dans les universités qui sont déplorables pour un certain nombre d'endroits.
Et pour en revenir à notre sujet du jour, puisque Marion Gaillard, vous avez, sans le savoir, peut-être conclu un peu notre émission d'hier sur la défense et sur les budgets. Mais Vincent Vicard, une conclusion sur cette, j'allais dire, guerre commerciale. Je pense qu'il faut faire très attention aux mots, mais en tout cas, politique commerciale et mesures et contre-mesures. Aujourd'hui, là, le calendrier, dans les jours qui viennent, est-ce qu'on sait un petit peu ce qui doit se dessiner ?
Il y a beaucoup de menaces qui sont brandies et qui pourraient arriver. Alors, on a beaucoup de surprises avec Donald Trump, donc des choses qui sont mises en place, des choses qui sont retirées. Donc, c'est difficile de faire un calendrier à long terme. Mais ce qu'on peut dire, et ça a été évoqué, il y a des menaces, elles sont réelles. On anticipe plutôt une détérioration des choses dans les semaines et les mois qui viennent. Mais l'Union européenne, elle a les moyens de répondre. Elle a les moyens de répondre. Les instruments, elle est pas si dépendante qu'on veut bien le croire des États-Unis, il faut s'en souvenir.
Elle veut riposter, mais aussi négocier et se laisser le temps de négocier, puisque les contre-mesures qu'elle a annoncées ne seraient effectives qu'à partir du 1er avril, ce qui laisse encore quelques jours pour discuter avec les États-Unis. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Vincent Vicard, économiste et adjoint au directeur au CEPI. Faut-il réindustrialiser la France ? C'est le livre que vous avez fait paraître l'année dernière au PUF. Et Marion Gaillard, merci beaucoup, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
L'Éthiopie est à la une de votre revue de presse, Catherine, ce matin. Va-t-elle replonger dans une guerre civile ?
C'est ce que craignent plusieurs médias qui constatent une lutte de pouvoir entre les dirigeants de la région du Tigré, entre la jeune et la vieille garde au pouvoir avant la guerre de 2020, explique le journal éthiopien The Reporter et l'hebdomadaire panafricain The Continent. Ces chefs tigréens se déchirent dans le nord de l'Éthiopie pour savoir s'il faut coopérer ou non avec le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. Leur division pourrait bien faire voler en éclats la paix, prévient la BBC, alors que les les armes se sont tues depuis 2022 au Tigré, après 2 années de guerre civile qui ont fait au moins 600 000 morts dans une région de 6 millions d'habitants, l'un des conflits les plus meurtriers depuis des décennies en Afrique. Anxiété palpable dans les rues de Mekele, la capitale du Tigré, décrivent The Continent et la BBC. Une vendeuse de légumes d'une 50aine d'années raconte aux médias publics britanniques que ses 2 enfants ont rejoint les combats du côté tigréen en 2020. Si sa fille est rentrée saine et sauve, son fils, lui, a subi de graves blessures. Pas question de revivre les jours sombres, confie-t-elle à la BBC. Nous vivons encore avec le traumatisme et les cicatrices de la guerre précédente. Près 1 million de personnes déplacées ne sont toujours pas rentrées chez elles au Tigré et vivent dans des camps de déplacés, comme le montre The Continent. Certaines infrastructures essentielles, les écoles, les structures de santé, n'ont toujours pas été reconstruites. Alors, dans les cafés de Mekele, les jeunes sont collés à leur téléphone, aux écrans de télévision, raconte la BBC et The Continent. Ils scrutent la moindre déclaration politique qui ferait replonger la région dans la guerre civile. Beaucoup se préparent au pire en fuyant vers la capitale fédérale, Addis Abeba, sur des vols qui affichent déjà complets, ou bien en faisant des réserves de nourriture, en retirant tout leur argent de la banque, comme le note un journaliste de The Continent dans un reportage écrit à la première personne. Parfois, il n'y a plus de liquide, raconte-t-il, dans ces banques prises d'assaut à Mekele. Je ne veux pas voir l'histoire se répéter. J'ai perdu de nombreux amis pendant la guerre, déplore ce journaliste. Des milliers de femmes et de filles ont été violées et aujourd'hui, l'ombre de la guerre est partout.
Et si la violence reprend au Tigré, les conséquences seront considérables dans une région qui est déjà instable.
Nouvelle implication de l'Érythrée voisine, elle qui a envoyé ses soldats pour nous tuer et nous violer pendant la dernière guerre, accuse The Continent. Eh bien, la vieille garde du Tigré chercherait à s'allier aujourd'hui avec l'Érythrée, estime le journal panafricain, ainsi qu'un haut cadre du Front de libération du peuple du Tigré, le parti qui gouverne cette région. Une nouvelle guerre aggraverait aussi la crise migratoire jusqu'en Europe, ajoute The Reporter. Pour Kyros, un jeune Éthiopien cité par The Continent, plus question de participer à une guerre civile en Éthiopie. Il préférerait, dit-il, partir, quitte à mourir en Méditerranée et servir de nourriture aux poissons.
Et pour finir, Catherine, la Russie et la Chine se félicitent des licenciements dans le média public Voice of America, la voix de l'Amérique.
Les autocrates du monde entier sautent de joie, écrit un éditorialiste du Washington Post. Si Hitler, Staline, Mao, les ayatollahs iraniens n'ont pas pu étouffer la voix de la liberté, Donald Trump l'a fait. Pour la première fois depuis 1942, Voice of America a été retiré de l'antenne, la quasi-totalité de ses 1300 employés licenciés, dénonce encore le Washington Post, après que le président républicain a sabré une fois de plus dans les aides fédérales, y compris pour les stations sœurs de VOA, Radio Free Europe, Radio Liberty et Radio Free Asia. Décision que regrette également le magazine conservateur Washington Examiner au nom des peuples opprimés, alors que VOA avait une audience estimée à plus de 400 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes dans le monde, diffusion en 63 langues. VOA, le soi-disant symbole de la liberté, a été jeté par son propre gouvernement comme un vieux chiffon. S'est réjoui hier en Chine le Global Times, l'organe de presse international du Parti communiste chinois, qui qualifie VOA d'usine à mensonges à propos des droits humains des Ouïghours dans la région du Xinjiang, de la situation à Taïwan ou à Hong Kong. En Iran, l'agence de presse Tabnak s'est félicitée de la fermeture du radiodiffuseur ennemi. Et la Russie de Vladimir Poutine s'est réjouie elle aussi de la disparition d'un média qu'elle avait qualifié l'an dernier d'organisation indésirable.
Trump a объявил о закрытии внезапно. Radio Свободы и Голос Америки.
Trump a annoncé la fermeture de Radio Liberty et Voice of America. C'est une bonne décision pour la rédactrice en chef du média d'État RT, interrogée sur le plateau télévisé de Rossiya Adin. Dans la foulée, le présentateur Vladimir Solovyev s'est amusé de la fermeture de tous les médias indépendants. C'est génial, a renchéri la rédactrice en chef de RT, citée par le magazine américain Newsweek. En Afrique et en Amérique latine, les médias de propagande russe et chinois en plein essor ne verront plus leurs mensonges contestés par une alternative fondée sur les faits, souligne le Washington Post, et d'enfoncer le clou. Les propagandistes ont tout à gagner à faire taire les voix de la vérité et de la liberté. Apparemment, l'administration Trump a le même intérêt.
Merci beaucoup Catherine Dutuff.